Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 88 de JAF Ta Mère, l'émission de l'association Équité Parentale, qui sera aujourd'hui consacrée à la troisième et dernière partie de l'interview de Monsieur Frédéric Delavier. Monsieur Delavier, auteur du livre Sexe contre énergie, qui part de l'étude de nos ancêtres pré-préhistoriques, primates et autres, afin d'expliquer, via la paléontologie puis l'étude de l'évolution de l'espèce humaine, les rapports sociaux hommes-femmes d'aujourd'hui. Nous avons parlé dans les émissions 1 et les émissions 2 de la différence qui s'est produite il y a quelques millions d'années entre des sous-espèces de primates avec ceux qui partaient à la chasse aux ressources, tous ensemble, mâles, femelles, petits, et qui avaient un certain nombre de pertes, et un autre embranchement où les femelles et les petits restaient dans les arbres pendant que les mâles allaient chercher la nourriture et donc les ressources. C'est cette branche qui a gagné la course à l'évolution. Et de tout ceci, monsieur explique et justifie un certain nombre de comportements qui sont encore présents dans nos psychés, dans nos habitudes, dans nos constructions intérieures. Nous parlerons aujourd'hui de la diminution de la taille du cerveau, d'ailleurs de l'être humain, au cours de son évolution, et nous aborderons dans cette troisième partie la problématique des pères. Qu'est-ce qu'un père au XXIe siècle? Pourquoi cette difficulté à avoir la garde de l'enfant lors des séparations? Et que disent nos pulsions internes au regard de l'évolution? C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler que nous venons de passer le 16 janvier et donc l'anniversaire du mouvement du 16 janvier 2019. Où nous étions présents devant les préfectures de Bourg-en-Bresse, Troyes, Caen, Évreux, Périgueux, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Saint-Étienne, Angers, Châlons-en-Champagne, Calais, Perpignan, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Bonneville, Paris, Versailles, Albi, Toulon, Poitiers, Nanterre, Créteil, Papeete, afin de demander l'égalité homme-femme dans tout ce qui concerne l'autorité parentale, protester contre les refus de prise de plainte par les services de police et de gendarmerie, et contre les associations qui instrumentalisent les conflits familiaux et le parti pris de ces services sociaux. Alors, Équité Parentale Papa Moderne fédérait effectivement ce mouvement, vous en avez été initiateur, il y a une belle page dédiée sur équitéparentale.com et nous avions quelques partenaires un peu partout sur le territoire qui ont eu des relais médiatiques télévisés.
Alors aujourd'hui, l'association Papa Maman Séparée 49 justement rejoint un mouvement national de papa en détresse suite à des décisions de justice qu'ils trouvent injustes et avec de graves conséquences. Privatisation d'enfants, voir ses enfants 4 jours par mois, des pères qui tombent dans la ruine, souvent SDF. Certains même vont jusqu'à l'acte ultime de suicide. Donc voilà, on se rallie à cette action nationale de pères qui veulent que le gouvernement réagisse sur ce problème de société pour pouvoir justement améliorer les choses. Dans les divorces conflictuels, quand on prend toutes les statistiques, des cas bien précis de papa et de maman, parce qu'il y a un conflit, malheureusement, la résidence alternée, par exemple, n'est quasiment jamais attribuée au papa. Il suffit qu'il y ait un conflit et le juge, pour prendre ses précautions, attribue la garde de l'enfant à la maman. Moi, je l'explique que les papas, déjà, ne prennent peut-être pas leur rôle non plus autant qu'ils devraient le faire. Aujourd'hui, la justice reste un petit peu sur la famille des années 1900. Aujourd'hui, la famille a énormément bougé, changé, amélioré. Un papa, aujourd'hui, est tout aussi capable qu'une maman de s'occuper d'un enfant. Et je pense que la justice ne prend pas assez en considération ces choses-là.
De l'association Papa Outé continue de militer en faveur d'une évolution de la loi en cas de divorce. Dans 7 cas sur 10, le lieu de résidence est celui de la mère. Les pères réclament plus d'égalité et une garde alternée systématique pour que l'enfant passe autant de temps chez ses deux parents. Raphaël Wittenberg, président de l'association, confirme que la réalité est encore très loin de l'égalité. Il répond à Sandro Lee, écoutez.
Aujourd'hui, dans les séances de justice, en divorce, 73% des résidences sont fixées chez la mère, 7% chez le père, 17% en résidence alternée. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. c'est-à-dire vraiment une inégalité entre les deux parents.
Sans oublier bien sûr nos amis Lillois qui ont fait un excellent travail à l'époque avec un lâcher de ballon et un défilé de poussettes vides. Non, ce n'est pas eux qui organisaient, mais c'était les relais du mouvement national Équité Parentale et ils ont très très bien représenté ce mouvement.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. En images en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Dans l'actualité, tout d'abord une première information. Aujourd'hui, c'est la toute première journée de l'Équité Parentale. Une opération menée par l'association lilloise J'aime mes deux parents qui lutte contre l'aliénation et l'exclusion parentale. Des rassemblements sont prévus devant une vingtaine de tribunaux dans toute la France, notamment ici à Lille. Tous les parents séparés, hommes ou femmes, ayant des difficultés pour voir leur enfant, sont invités à se joindre à cette mobilisation. On compterait aujourd'hui en France plus de 920 000 enfants coupés de tout contact avec l'un de ses parents. L'objectif est donc d'interpeller le gouvernement pour mieux considérer la coparentalité afin de résoudre devant la justice les cas d'exclusion. Écoutez ce témoignage d'un père de famille concerné au micro d'Idil Gunay.
Moi je suis père d'une petite fille qui a 13 mois. Je me suis séparé de sa maman et suite à une séparation effectivement un peu conflictuelle avec elle, elle a décidé que l'enfant lui appartenait et que je la verrais au gré de ses humeurs. Quand elle le décide, où elle le décide, et le souci est que tant qu'il n'y a pas de jugement, j'ai aucun pouvoir. Donc la police ne prend pas les plaintes tant qu'il n'y a pas de jugement, alors qu'il y a un code civil qui dit que chaque enfant doit avoir accès à ses deux parents et ça devrait être respecté même sans jugement. Le souci est qu'en France, actuellement, on n'a aucun droit tant qu'on n'a pas de jugement.
La Convention des droits de l'homme précise que chaque personne a le droit à sa vie familiale. Donc ça sous-entend qu'un parent, un papa, une maman, doit pouvoir accéder à ses enfants, quelle que soit la situation. Et ensuite, vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que chaque enfant a le droit et doit pouvoir maintenir les liens avec ses ascendants, qu'ils soient maternels ou paternels. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très loin de cette réalité. Donc la France pourrait être amenée à être poursuivie devant des cours internationales de justice pour ces manquements qui sont de plus en plus sérieux. Parce que 920 000 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années?
On a une belle loi du 4 mars 2002 qui traite de la coparentalité. Elle a tout ce qu'il faut en fait dans cette loi. Elle est enviée par beaucoup de pays d'Europe. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée justement par les tribunaux, donc elle n'est pas appliquée par les JAF. Et lors de séparations conflictuelles, on a très très peu de verdicts qui sont rendus dans le sens de la coparentalité. Et on a toujours un des deux parents qui est plus ou moins exclu de la vie de son enfant. 4 jours par mois, c'est quand même très peu pour être parent, pour s'impliquer dans l'éducation de son enfant. On demande que tous les parents puissent avoir plus que ça, simplement.
Une présence donc dans 26 départements. Et puisque nous parlons chiffres, nous rappelons que les statistiques sont toujours difficiles à avoir. Nous nous demandons d'ailleurs pourquoi il est autant difficile d'avoir des statistiques alors que toutes celles que nous avons sont extrêmement défavorables. Par exemple, nous voyons qu'en 2012, en cas de divorce contentieux, c'est-à-dire qu'avec désaccord sur l'endroit de garde, sur le lieu de garde, le père obtient la résidence de l'enfant uniquement dans 8% des cas, ce qui comprend les adolescents qui imposent leur choix et les mères qui sont réellement dysfonctionnantes. Nous aimerions qu'il y ait de véritables statistiques publiées par le ministère sur la situation de la famille en France. Nous souhaiterions que l'article 1 de la Constitution instaurant l'égalité homme-femme soit respecté par la justice familiale, et nous disons merci à tous les militants et tous les bénévoles qui, le 16 janvier 2019, se sont mis, alors qu'il faisait parfois extrêmement froid, le matin, l'après-midi, devant les préfectures de France, avec leurs affiches et leurs prospectus. Voilà. Mais tout de suite, l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui, troisième émission avec Frédéric Delavier, l'auteur notamment de l'ouvrage que j'ai entre les mains qui s'appelle « Sexe contre énergie », qui est intéressant, qui est vraiment un point de départ à beaucoup de réflexions et de raisonnements intellectuels. Monsieur Delavier, j'avais vu ici même, dans une émission, avec Joël Monzé, qui était docteur en neurosciences, qui nous racontait que le nombre d'enfants dans le monde contemporain en Occident, qui était suivi par des orthophonistes, qui avaient besoin malheureusement parfois de Ritaline, c'est un truc d'Amérique du Nord qu'ils ont comme ça, était dû au fait que la société se complexifiait beaucoup plus qu'avant, et il expliquait que l'adolescence se faisait plus tôt, de manière plus précoce, mais durait plus longtemps, et que c'était à cause de la complexification de l'environnement dans le développement des petits. Vous m'avez expliqué la semaine dernière qu'en fait notre cerveau avait rétréci par rapport à ce qu'il avait pu être à une époque, et que c'était dû, si j'ai bien compris, à la segmentation des tâches et au fait qu'un certain déchargement des efforts de créativité ou de mémorisation pure qu'on devait avoir. Alors comment est-ce que vous expliquez l'avis de ce docteur en neurosciences par rapport à ce que vous nous avez dit ?
Parce que le problème maintenant, c'est de trouver sa voie. Ça met beaucoup plus de temps pour un petit à trouver sa voie, donc l'endroit où il sera utile dans la société humaine. Avant, le petit, on savait déjà ce qu'il allait faire. Il allait remplacer son père. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. Dans une société moderne qui avance extrêmement vite comme la nôtre, on est obligé de trouver des nouvelles voies. Tu vois, les gamins maintenant, moi, tous, ils m'appellent, ils me disent « Mais Fred, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est très dur. Nous sommes un monde qui est en transformation très rapide. Tu regardes la vitesse de transformation au temps préhistorique, elle est beaucoup plus lente. On peut rester 100 millions.
Alors, pourquoi la diminution de la taille du cerveau ? Si jamais il y a effectivement une
grande complexification. La diminution de la taille du cerveau, c'est qu'avant, on avait besoin, il n'y avait pas cette fragmentation des tâches. On avait besoin d'avoir des individus avec un gros cerveau, une grosse mémoire, pour connaître le milieu dans lequel ils étaient. Ils étaient multitâches. Ils n'étaient pas hyper spécialisés, si c'était des bons chasseurs, mais il n'y avait pas d'hyper spécialisation. Maintenant, tu as des mathématiciens, tu as des physiciens, tu as des mécaniciens, tu comprends ? Tu as des réparateurs d'ordinateurs. Donc, tu as tout. Une formation à faire qui prend du temps, mais hyper spécialisée sur un domaine. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, l'esprit humain, il est fait pour s'adapter à nos machines, qui sont des machines qui vont calculer à ta place et qui vont stocker de la mémoire à ta place. Mais l'important, ça va être de savoir où est stockée la mémoire et quelle machine va pouvoir faire les calculs à ta place. Donc, tu as tout le temps l'importance d'avoir un homme formé à la connaissance de son milieu pour aller chercher l'information et pour calculer. Mais c'est ce que nous fabriquons, l'externalisation, en fin de compte, de nos capacités de mémorisation que nous allons utiliser. Nous allons nous former à des outils que nous créons. C'est-à-dire que nous nous adaptons aux outils que nous créons. Nous inventons des outils par notre cervelle, et ces outils vont nous modifier, vont modifier notre cervelle, puisque notre vie va se passer sur le fait de performer ou pas sur ces outils. C'est simple. Un bon conducteur de bus, un bon mécanicien, un mathématicien, Villani, un bon mathématicien. Tu mets Villani, il fait des calculs énormes, il est très fort. Tu mets Villani à l'époque de Cro-Magnon, il meurt. Tu comprends ? Ses calculs ne serviront à rien. On demande à Cro-Magnon d'avoir une mémoire énorme de son territoire.
Moi, j'ai parlé à la directrice d'école primaire, qui me disait que le pourcentage d'enfants qui avaient besoin de soutien, d'aller chez l'orthophoniste, d'acquisition du langage, tout simplement, est extrêmement important.
On a un langage qui s'est aussi complexifié avec le temps.
Il y a des débats là-dessus. Il y a un grand débat là-dessus.
Par rapport à... le langage s'est énormément complexifié, puisqu'on est...
Par rapport à il y a 20 ou 30 ans, par exemple, il y a que des débats.
Il y a 20 ou 30 ans, mais tu lis l'Iliade, tu lis l'Odyssée, ce sont des langages qui utilisent, en général, par manque de langage technique, puisque plus on remonte dans le passé, moins le langage est riche en mots, et plus il utilise la parabole, la métaphore, pour compenser la faiblesse en mots. C'est pour ça que les premières, pas sur d'autres domaines, mais les premières communications se faisaient, c'est-à-dire l'enseignement se faisait par la poésie. La poésie, c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour faire beau. La poésie, c'est ce qui permet dans les réseaux neuronaux du cerveau d'aller chercher une information plus rapidement. C'est-à-dire que quand tu sors une rime et un vers, tu es sûr d'aller, quand tu sors le premier vers, tu es sûr de trouver instinctivement la rime dans un groupe de neurones qui est relativement codé proche, puisque ça va être le même son. Et la même longueur. D'ailleurs, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Je peux être grossier avec des... Je vais être grossier parce que je le mets tout le temps.
Il y a un exercice intellectuel de conception de la poésie, maîtrise du langage, est assez important, bien sûr.
Parce qu'on a un manque de vocabulaire. Et plus on arrive sur des sociétés évoluées, plus tu as un grand, grand, grand vocabulaire. Tu vois. Et ça pose aussi des problèmes pour les petits, avec ces sociétés hyper techniques, avec de grands vocabulaires, très techniques. Ça pose des problèmes pour les enfants. Avant, les gens parlaient bien, mais le vocabulaire était plus limité. Et quand tu arrivais dans les campagnes, ils parlaient un patois, ils n'avaient pas ce langage technique. Faut pas arriver.
Pourquoi la réduction du cerveau, alors ?
La réduction du cerveau, parce que...
Plus de mots.
Oui, parce que nous sommes multitâches. C'est pas que langage. c'est qu'on était multitâche. Maintenant, on devient spécialisé. Donc, une grande partie du cerveau est utilisée pour cette spécialisation.
Et on oublie
alors
qu'un
gros cerveau servait à avoir une multitude de micro-spécialisations pour survivre dans un domaine, dans un milieu qui n'était pas encore un milieu, une civilisation aussi technologique que la nôtre. Tu comprends ? Nous, on a besoin maintenant de spécialistes. Plus une civilisation augmente, plus elle a de spécialistes. Mais tu vois que ces spécialistes peuvent être des fois complètement déconnectés sur certains domaines. Tu vois, incapables de faire leurs papiers, incapables d'aller faire leurs courses. Tu es obligé d'avoir un livreur qui vient les livrer. Ils savent qu'être sur leur domaine, un peu obsessionnel. Tu vois, comment on appelle ça ? Un geek, tu vois. Mais les geeks sont utiles aussi. Mais ça fait des individus complètement différents. Tu vois, avant, on était multitâches. Donc, un plus gros cerveau. Maintenant, on se spécialise. Cette réduction du cerveau, alors, il y en a qui disent qu'elle a commencé, je ne me souviens plus, j'ai écouté une émission là, de neurosciences, dans les années 90, je crois que c'est ça, je pense qu'elle a commencé bien avant, en tout cas au siècle dernier, je pense qu'elle a commencé bien avant. Elle a bien avant avec l'arrivée des spécialisations au niveau des humains. Donc, c'est quelque chose qui arrivait bien avant. Donc, les réductions du paléolithique à maintenant, il y a réduction du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il y a réduction de l'intelligence. Il y a transformation de l'intelligence. Mais il y a réduction du cerveau.
Lately I've been noticing I say the same things he used to say. And I even find myself acting the very same way. I tap my fingers on the table to the rhythm in my soul. And I jingle the car keys when I'm ready to go. When I look in the mirror, he's right there in my eyes, staring back at me. And I realize the older I get, the more I can see how much he loved my mother and my brother and me. And he did the best that he could. And I only hope when I have my own family that every day I see a little more of my father in me.
Frédéric Delavier, au regard de ce que vous avez dit, au regard de vos études sur notre histoire, de là où nous venons, notre construction, au regard du monde d'aujourd'hui, cette demande d'égalité homme-femme pour l'accès à nos enfants, est-ce qu'elle est logique ou est-ce que nous sommes une victime de notre temps ? On a une chance d'y arriver, vous pensez, au XXIe siècle ?
Elle est légitime. Elle est légitime parce qu'il y a eu un besoin. Alors, moi, je parle en tant que moi. Il y a eu un besoin pour les femmes d'être, en tout cas dans le domaine du travail des hommes, légal. Parce qu'au début, elles ont été prises, elles ont été sorties du foyer pour être utilisées. La liberté qu'on donnait aux femmes était en vérité un esclavage, puisqu'on les prenait pour entrer en concurrence avec les hommes dans le milieu de la production. Tout simplement, c'était utilisé. On dit que c'est pour leur bien, mais en vérité, c'est une utilisation. Donc, elles ont redemandé après avoir une égalité. Cette égalité dans le monde du travail est absolument normale. Pour une tâche, tu dois être payé de la même façon. On n'a pas à voir une femme payée moins qu'un homme. Le problème, c'est que dans le domaine de l'éducation, on se retrouve avec l'inverse. C'est-à-dire qu'on continue avec les vieux schémas, la femme s'occupe du petit et l'homme, on le met de côté. Alors, si les femmes ont l'égalité dans le domaine du travail, ce qui est normal, elles restent propriétaires, souvent, dans nos sociétés occidentales, de l'enfant. Tu vois, on leur donne traditionnellement. Alors que les hommes, dans ce cas-là, peuvent très bien repartir dans le domaine des femmes. Si les femmes sont venues dans le domaine des hommes, les hommes peuvent repartir dans le domaine des femmes. Tu vas à Berlin, tu vois des femmes qui discutent, et puis derrière, t'as le mec qui tire la, qui pousse la poussette avec le petit dent, et puis avec son habit
Oh, tu vas en Finlande, t'as le chanteur de death metal avec les tresses qui tient son petit, ça dérange personne.
Voilà.
Et puis ça arrête de bosser durant 3 mois pour s'en occuper. Il a un congé parental beaucoup plus long que le nôtre.
Voilà, parce que les femmes se sont mises dans le domaine des hommes. Le problème, c'est que maintenant, on fait l'égalité des femmes dans le domaine du travail, ce qui est absolument normal, mais l'homme n'a pas eu l'égalité par rapport à l'éducation des petits-enfants qu'on perd. Donc, une femme va partir, par exemple, puisque peut se permettre déjà de choisir son homme. Avant, elle choisissait pas son homme. On lui choisissait, on lui donnait bien sûr son accord. On essayait de choisir le meilleur parti. Il est bien, il est bossu, c'est pas bon. Il est pas beau.
Il y a un petit rapport de force qui s'instaurait parfois aussi.
Il y a un petit rapport de force, mais on lui trouvait un homme capable de la nourrir, elle et ses enfants, pour ouais, qu'elle accomplisse sa fonction de femme, qui est une fonction à plein temps d'éducation au foyer. Hein, si tu veux, c'était ça, à la base. À partir du moment où t'as mis la femme à l'usine, elle gagnait elle-même sa vie, elle pouvait se permettre de choisir son homme, puisque c'est plus l'homme qui la nourrissait. Donc, il y avait un changement. C'est pour ça que les histoires d'amour sont arrivées à partir de ce moment-là. Hein, l'amour, voilà, lui, il me plaît, je préfère Jeannot à Rufus, il est mieux, Rufus est un alcoolique, Jeannot est mieux. Elle va choisir la tombée amoureuse. Elle va tomber amoureuse avant, mais elle a le droit. Elle peut, en vérité, tout simplement choisir, puisqu'elle ramène... Le problème, c'est qu'elle concerne le droit sur l'éducation des petits, et l'homme se retrouve en concurrence avec la femme qui a les mêmes droits que lui, mais lui n'a pas récupéré les droits sur les enfants. Normalement, si on veut une égalité, égalité dans le travail, égalité dans la garde des enfants, c'est-à-dire les enfants qui vont une partie du mois avec le papa ou avec la maman, mais qui est une égalité. Et là, on se retrouve avec des mamans qui partent avec les enfants et qui laissent des papas tout seuls avec un manque, tu vois, qui travaillent. Une maman qui est aidée par des... Lui, va payer une pension. On va lui demander une pension. Hein. On va donner à la femme l'enfant parce qu'on dit la femme est la plus apte. Elle est souvent la plus apte à éduquer des petits, à les programmer pour
ça. Et le père aura mal, comme vous l'avez expliqué précédemment.
Ah oui.
En plus.
Et le père aura mal parce qu'il a une programmation qu'on sait pas d'attachement au petit qui était une programmation de nourrissage. Il avait besoin d'avoir cette fonction d'aller chercher l'énergie à l'extérieur pour la ramener à la femme. Là, il est transformé en pourvoyeur de pension, mais sans avoir la récompense de voir ses petits la plupart du temps. Donc, il est là pour payer sans voir. C'est une horreur. Tu vois. Donc, l'homme est, par contre, la grande victime de ce changement de paradigme. Ouais, c'est ça. Alors qu'il faut que l'homme doit retrouver sa place, c'est-à-dire la possibilité d'avoir aussi les enfants. S'il a perdu une partie de sa place dans le milieu du travail qui a été concurrencée par les femmes, ce qui est normal, hein, elle est concurrencée, si elles sont meilleures, elles prennent la place. Le problème, c'est que maintenant, on met des femmes parce qu'il faut un quota de femmes, ce qui est ridicule. Dans une société intelligemment faite, on met les gens les plus performants au poste où ils doivent aller, que ce soit une femme ou un homme. Maintenant, on te met un quota de femmes. Ce qui est ridicule. Mais normalement, dans cette société où les femmes ont concurrencé les hommes dans le milieu du travail, les hommes pourraient avoir le droit d'avoir, eux, le rôle de la femme, hein, une certaine féminisation de l'individu, et d'avoir la garde, tout simplement. Nous, on a perdu, si tu veux, nous les hommes, on a perdu, on n'a rien gagné. Et les femmes, elles ont gagné une certaine liberté qui était normale, tout en ayant conservé leur droit de posséder les enfants et les avoir avec elles pendant les premières années de la vie. Évidemment, à partir d'un certain moment, les enfants en ont marre, ils disent « on veut voir papa », ça fait des drames, et ils en veulent à leur mère. Hein, parce qu'il faut savoir que si elles font ça, ça va leur péter dans
si
la gueule.
Si le lien tient, ça ne sera pas sujet de l'émission, mais effectivement, si on arrive à maintenir le lien jusqu'à l'adolescence, que l'enfant fait l'adolescence près du parent qui est moins présent, le lien se crée. Si jamais ce lien ne se crée pas avant, ça peut être problématique.
Driving through town, just my boy and me, with a Happy Meal in his booster seat, knowing that he couldn't have the toy till his nuggets were gone. A green traffic light turned straight to red. I hit my brakes and mumbled under my breath. His fries went a-flying and his orange drink covered his lap. Well, in my four-year-old said a four-letter word. It started with S, and I was concerned. So I said, son, now where'd you learn to talk like that? He said, I've been watching you, Dad, ain't that cool? I'm your buckaroo, I wanna be like you and eat all my food and grow as tall as you are. Got cowboy boots and camo pants. Yeah, we're just alike. Hey, ain't we, Dad? I wanna do everything you do. So I've been watching you.
Moi, je retiens cette discussion extrêmement intéressante.
Utiliser les réseaux sociaux, je dis aux papas, si jamais il y a des papas qui sont séparés de leurs... Alors, c'est souvent les papas qui sont séparés de leurs enfants. Si vous êtes séparés de vos enfants, il faut absolument que vous ne baissiez pas les bras.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut que vous mainteniez un contact, même un contact lointain. Oui. Vous êtes un modèle. Vous êtes le phare qui guide dans la nuit. Même si on vous a éloigné, vous brillez à l'extérieur. Et les réseaux sociaux, le téléphone, Skype... tous les réseaux sociaux maintenant de télécommunication vous permettent d'être relié à vos enfants beaucoup plus facilement. Il faut jouer là-dessus.
Oui.
C'est-à-dire que même loin, vous êtes prêt.
On l'explique aussi en permanence. Même si le courrier n'arrive pas, même si le cadeau n'arrive pas, vous gardez un double et vous gardez la preuve que vous l'avez fait. Parce que un jour, l'enfant viendra et vous demandera « Mais pourquoi ?» Et vous pourrez lui montrer que vous avez essayé et ça peut suffire. Voilà. Ça peut suffire à faire le déclenchement. C'est important de ne jamais laisser le bras. Monsieur Delavier, vous justifiez.
Faites des chaînes YouTube.
Oui.
Faites des chaînes YouTube pour vous, pour parler de votre vie, de vos enfants. Elles resteront là comme quelque chose à aller chercher quand votre enfant va grandir, va commencer
à aller
sur les réseaux. Il vous trouvera. Il vous trouvera même si la mère bloque. Mais on peut comprendre que la mère des fois bloque. Hein. Les histoires de couple sont des histoires de couple. Mais restez présent. Essayez d'être visible. Voilà.
Monsieur Delavier, je vous écoute là. Vous êtes les 5 minutes que vous venez de faire là qui ont l'air effectivement extrêmement émotionnels pour vous. Vous avez été touché par cela, vous personnellement?
Bien sûr, moi je suis un papa, moi j'ai expérimenté la vie. Donc je suis un papa qui a été touché par ça. Mais je peux même pas en vouloir à la maman. La maman est la victime d'une société qui a changé trop vite, on va dire. Nous sommes dans une période de restructuration. La femme, un moment, était bien à sa place au foyer. Elle a perdu sa fonction foyer qu'elle a dû retrouver dans le monde des hommes. Donc ça crée des énormes troubles chez la femme, mais aussi chez l'homme, qui lui a perdu son rôle de protecteur. L'homme se sentait glorifié d'être protecteur, rapporté à la femme la nourriture, être celui qui, non pas domine, mais celui qui apporte et qui fait vivre.
Qui pourvoit.
C'était le rôle de l'homme.
Vous expliquez, je prends et je donne, ce que vous expliquez.
Je prends et je donne. L'homme ne peut même plus donner, on lui prend sa pension. Souvent c'est l'État qui remplace ça avec les aides sociales, les appartements qu'on donne. Une femme peut quitter son homme et vivre relativement correctement avec les aides que lui donne l'État. Ce qui est un avantage, parce que beaucoup, on parle des bons papas, mais il y a des papas qui peuvent se barrer et dire salut.
Vous l'avez expliqué, nous avons une part d'animalité que tout le monde ne maîtrise pas.
Oui, que tout le monde ne maîtrise pas.
Ah, vous l'avez dit tout à l'heure dans la première émission, bien sûr, tout à fait.
Alors,
Monsieur Delavier, moi ce que je retiens d'aujourd'hui, une discussion qui est quand même passionnante, j'espère qu'elle intéressera les gens qui nous auront écoutés, c'est que vous justifiez, de par vos études et vos analyses sur l'origine de notre espèce et autres, eh bien écoutez, le combat des parents d'aujourd'hui, et bah, quelque part c'était intéressant, il fallait le dire. Voilà. Monsieur Delavier, merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
En espérant que ça fasse progresser les choses, et puis qu'on se comprenne, hommes et femmes, pour mieux pouvoir lancer sur le chemin de la vie nos petits. Voilà, ils ont besoin d'un papa et d'une maman pour mieux se construire.
Absolument.
Il faut que les mamans le sachent et que les papas aussi.
Il faudra réussir à faire cette chose-là, il faudra réussir à le faire ensemble pour le bien de tous. Moi, je suis d'accord.
Voilà.
Merci.
Au revoir. 'Cause I've been watching you, that ain't that cool. I'm your buckaroo, I wanna be like you and eat all my food and grow as tall as you are. By then I'll be strong as Superman. We'll be just alike. Hey, won't we, Dad? When I can do everything you do, 'cause I've been watching you. Hey,
RLP.
Radio libre en Périgord.
J'arrive.